VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable hier plusieurs recours en rapport avec la présidentielle du 7 octobre dernier.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO envisage des négociations avec les rebelles ADF ougandais qui sévissent dans le Nord Kivu.
En Guinée, un mort hier à Conakry, lors de la seconde des deux journées villes mortes organisées par l'opposition.
La Guinée-Bissau paralysée hier par une grève des associations de transporteurs routiers.
Affaire Jamal Khashoggi, le président américain Donald Trump a demandé le respect du principe de présomption d'innocence face aux accusations contre Riyad.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, c'est aujourd'hui que s'achève l'examen des recours introduits auprès du Conseil constitutionnel. L'opposition demande l'annulation totale ou partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Au cours de la première journée d'audience hier, toutes les requêtes examinées ont été rejetées par les 11 membres du Conseil constitutionnel. De Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Juntap.
Requête irrecevable. La phrase a été répétée à 16 reprises par le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana au cours de l'audience qui s'est déroulée sous haute sécurité à Yaoundé. Requête irrecevable de l'opposant Maurice Kamto qui a recusé 5 membres du Conseil constitutionnel pour délit d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis du RDPC, le parti du président Paul Biya. Les 5 sont encore membres du comité central ou du bureau politique du RDPC ont soutenu la dizaine d'avocats réunis par l'opposant Maurice Kamto. Après 2 heures de plaidoirie, la décision susceptible d'aucun recours est tombée. Requête irrecevable. Aucun commentaire de Maurice Kamto, visiblement déçu après cette décision. La suite de l'audience a donné lieu au même classique. Toutes les requêtes ont été jugées irrecevables, soit pour non-conformité au code électoral, dépôt hors délai, disqualification du requérant ou encore absence des preuves de dénonciation d'irrégularité lors du scrutin. Ce mercredi, 2 derniers recours vont être examinés. Un du parti de Maurice Kamto, demandant l'annulation du scrutin présidentiel dans 7 régions sur 10, parmi lesquelles les 2 zones anglophones, et un autre recours du candidat du Social Démocratique Front, Joshua Oshi. Sauf surprise de dernière minute, le Conseil constitutionnel devrait valider l'élection présidentielle du 7 octobre dernier et publier les résultats officiels au plus tard, le 22 octobre prochain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO envisage d'engager des négociations avec les rebelles ADF qui sèment la terreur dans le Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré hier sa chef, Leila Zerougui. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
C'est ma conviction, je ne crois pas qu'un groupe qui est dans ce pays depuis les années 80, on peut le vaincre uniquement par les armes, a indiqué Leila Zerougui lors d'une conférence de presse. Selon elle, les négociations peuvent se faire dans la mesure où l'on dit déposer les armes. La responsable de la MONUSCO dit ne pas prôner l'impunité, elle entend plutôt explorer tous les moyens visant à mettre fin à la souffrance des populations. Les ADF sont historiquement des rebelles ougandais musulmans, hostiles au président Yoweri Museveni, installé dans l'est de la RDC. Ils sont tenus responsables depuis octobre 2014 de la tuerie de centaines de civils, dont 235 rien que depuis début 2018 et de 15 casques bleus dans la région de Beni. Ces hommes armés occupent des zones entières, font beaucoup de mal à l'armée congolaise et menacent les paisibles citoyens. Ils ont récemment enlevé un casque bleu et personne ne sait s'il est vivant ou mort.
En Guinée, il a fallu attendre près de 8 mois après les élections locales pour installer les conseils communaux. Mais les choses ne se passent pas dans le calme, malgré un accord politique signé le 8 août dernier. L'opposition, qui parle de mauvaise foi du pouvoir, a appelé à des journées villes mortes qui ont provoqué des manifestations violentes à Conakry. Selon plusieurs sources, un jeune a été tué par balle. Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry, fait le point.
L'opposition et la mouvance avaient accepté de régler les contentieux par un consensus. Mais l'installation des élus locaux, qui a démarré il y a seulement quelques jours, ne fait pas que des heureux. Les responsables de l'opposition guinéenne accusent leurs adversaires politiques de trahison, de violation de l'accord. L'installation se fait au compte-goutte et l'opposition qui a perdu certaines communes qui devaient lui revenir selon sa propre lecture de l'accord du 8 août crie à la corruption et à l'achat de conscience. Des faits suffisants pour appeler à des journées ville morte lundi et mardi. Des perturbations ont été signalées sur l'axe Le Prince. Plusieurs sources parlent de la mort d'un jeune qui aurait été touché par balle. Les forces de l'ordre étaient visibles dans cette partie de la capitale pour empêcher les jeunes manifestants de mettre des barricades ou encore de brûler les pneus. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Niger, 45 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en juin, selon un bilan de l'ONU. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La situation globale des inondations à la date du 30 septembre fait état de 45 morts et plus de 208 000 personnes sinistrées, d'après le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, citant des statistiques du ministère nigérien de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes. En plus, les eaux ont détruit environ 17 000 maisons, décimé 33 000 têtes de bétail et englouti des milliers d'hectares de cultures de mil, de maïs et de haricots. Cette année, Niamey a été épargné avec seulement 469 personnes sinistrées, en deçà donc des milliers de sans-abri déplorés en général. En revanche, la région de Dosso, dans le sud-ouest, a enregistré le plus de sinistrés, suivi de celle d'Agadez, dans le nord, pourtant désertique. 17 décès ont été enregistrés pour la seule ville d'Agadez. Malgré la courte durée de la saison des pluies et la baisse des précipitations, le Niger fait face depuis quelques années à des inondations, y compris dans les zones désertiques du nord.
La Guinée-Bissau a été paralysée hier par une grève déclenchée par la Fédération nationale des associations de transporteurs routiers regroupant taxis, taxis collectifs et camions. Des détails avec Bagassi Koura.
Tout le pays est paralysé, a déclaré à la presse Mamadou Konté, le président de la fédération syndicale, affirmant qu'à l'intérieur du pays, le mot d'ordre a été scrupuleusement respecté. À Bissau, la capitale, les grandes artères étaient désertes. Seuls les véhicules privés roulaient sur des routes pratiquement vides. Des écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester à la maison, alors que les établissements d'enseignement public sont touchés depuis le début du mois par une grève des enseignants. Dans beaucoup de services de l'administration, les fonctionnaires ne se sont pas rendus au travail. Les grévistes dénoncent les nombreux rackets de policiers et réclament une définition claire des rôles entre la police, la garde nationale et les agents de la direction des transports terrestres. Ils protestent également contre l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes.
En Éthiopie, le premier ministre réformateur, Abiy Ahmed, a nommé un nouveau gouvernement. Pour la première fois, la parité est strictement respectée et le portefeuille de la défense a été confié à une femme, Nathalie Barge.
Les femmes occupent des postes clés dans ce gouvernement réduit à 20 postes de ministres, dont celui de la paix, nouvellement créé, du commerce et de l'industrie et de la défense. La nouvelle ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, est la première femme à occuper ce poste dans le pays. Elle était auparavant ministre de la Construction après avoir été au tourisme. Madame Mohamed n'est toutefois pas la seule femme à la défense sur le continent. La centrafricaine Marie-Noëlle Koyara et la kényane Rachel Omamo remplissent actuellement ces fonctions. Le nouveau ministère de la paix a été confié à Moufériat Kamil, ancienne présidente du Parlement. La précédente équipe comptait 28 ministres, dont 5 femmes. L'Éthiopie est le deuxième pays africain, après le Rwanda, à établir la parité au sein du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a critiqué les condamnations croissantes de l'Arabie saoudite ainsi que les allégations selon lesquelles Riyad serait derrière la disparition du journaliste Jamal Khashoggi il y a 2 semaines au consulat saoudien à Istanbul en Turquie. Dans une interview à l'agence Associated Press, M. Trump a demandé le respect du principe de présomption d'innocence. Il s'agit d'une allusion à l'affaire Brett Kavanaugh dont le Sénat vient d'entériner la nomination à la Cour suprême après que ce juge a été accusé d'agression sexuelle.
Auparavant, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'était entretenu en Arabie saoudite avec le roi Salman et le prince héritier Mohammed Ben Salman. M. Pompeo est arrivé aujourd'hui à Ankara en Turquie. Riyad nie être impliqué dans la disparition de Khashoggi, mais serait prêt à reconnaître, à admettre, selon des médias américains, que notre confrère, un critique du prince héritier saoudien, a été tué au consulat d'Istanbul lors d'un interrogatoire qui a mal tourné.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Tunisie envisage l'adoption d'un budget en hausse de 8% pour l'année 2019. Le nouveau budget de près de 40,6 milliards de dinars contre 37,6 milliards en 2018 ne devrait cependant pas être accompagné de nouvelles taxes. Au contraire, le gouvernement envisage de réduire la charge fiscale des secteurs de la technologie, du textile, de l'ingénierie et des produits pharmaceutiques, les faisant passer de 25% à 13,5%. Les autorités tunisiennes envisagent atteindre une croissance de 3,1%. Le secteur des infrastructures de l'Afrique de l'Est devrait enregistrer une forte croissance au cours des 5 prochaines années, a indiqué un rapport de la société Global Data. La tendance devrait être impulsée par les 3 principales économies de la région, à savoir l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Terminons avec l'Égypte qui pourrait générer 53% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Ce changement permettra au pays d'économiser 900 millions de dollars chaque année, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables. Pour ce faire, l'Égypte devrait faire passer les investissements dans les énergies renouvelables de 2,5 milliards de dollars actuellement à 6,5 milliards de dollars par an.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les premiers qualifiés pour la CAN 2019 connus.
Eh oui, Madagascar va disputer pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations grâce à sa victoire 1-0 en éliminatoire contre la Guinée équatoriale. La sélection malgache a obtenu son billet grâce à un but de Ndjiva Rakoto-Arimalala. Jusqu'ici, le pays n'avait jamais dépassé le tour préliminaire. La Tunisie et l'Égypte se sont également qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations après leurs victoires respectives au Niger de Buzyn et au Iswatini, l'ex-Swaziland, 2-0. Enfin, grâce à un but tardif de Sidi Sarr, le Sénégal, ça va vous faire plaisir, a battu le Soudan 1-0. Les Lions de la Teranga sont également qualifiés.
Les autres résultats?
Le Gabon est allé gagner 1-0 au Soudan du Sud grâce à un but d'André Bioko Poko. Le Gabon qui n'a plus qu'1 point de retard sur le leader du groupe C, le Mali, tenu en échec au Burundi, 1-0. La Guinée également tenue en échec 1-0 au Rwanda a raté une belle occasion de s'assurer la qualification, alors que la Côte d'Ivoire n'a pu faire que match nul 0-0 en Centrafrique. Le beau match nul obtenu par les Comores face au Maroc, 0-0 entre le Cameroun et le Malawi, même score entre les Seychelles et l'Afrique du Sud, la Tanzanie qui bat le Cap-Vert 2-0, la victoire du Bénin face à l'Algérie 1-0 grâce à un but d'Almeida, et puis le Lesotho battu à domicile par l'Ouganda 2-0. Floyd Haïté libère dans les dernières minutes le Togo en Gambie, victoire 1-0. Match nul 0-0 entre le Botswana et le Burkina Faso. La Mauritanie s'impose à domicile grâce à un but de Bah face à l'Angola, 1-0. La Namibie qui domine le Mozambique, 1-0. Et puis le match nul à Harare entre le Zimbabwe et la RDC, 1-0. Le Congo-Brazzaville battu 2-1 au Libéria. Et puis la victoire importante du Nigeria face à la Libye, 3-2.
La Ligue des Nations en Europe.
Oui, l'équipe de France a renversé l'Allemagne ce mardi au Stade de France, 2-1, grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Bleus s'envolent en tête de leur groupe de cette Ligue des Nations. L'Ukraine a continué son sans faute en dominant la République tchèque 1-0. Sans Gareth Bale, le Pays de Galles a tout de même réussi à s'imposer en Irlande, 1-0. Et puis en match amical, la Belgique a dû concéder le match nul 1-0 face aux Pays-Bas.
Neymar fait mieux que Pelé.
Titulaire et passeur décisif face à l'Argentine et la victoire 1-0 du Brésil. À retenir que Neymar a dépassé Pelé au nombre de sélections avec 94 sélections. Il surpasse donc le roi Pelé. À 26 ans seulement, il égale également Guilmar pour entrer dans le top 10 des joueurs les plus capés de la sélection brésilienne. Il est encore très loin du record de Cafu, 142 sélections. Et puis, Idrissa, la NBA, le basket nord-américain, a repris ses droits cette nuit.
Oui, deux matchs au programme. Les Boston Celtics ont battu les Philadelphia Sixers 105 à 87. Et les champions en titre, les Golden State Warriors, ont battu Oklahoma City Thunder 108 à 100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Journée internationale de l'alimentation hier. À cette occasion, le Programme alimentaire mondial, la FAO et le ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo ont publié un rapport dans lequel il est fait état de 15 millions de personnes qui n'ont pas de quoi manger en RDC. Selon le rapport, l'insécurité alimentaire dans les zones de conflit pousse des milliers de femmes à se prostituer et des enfants à rejoindre les groupes armés pour assurer leur survie. Eddie Sango a joint à Goma une responsable du Norwegian Refugee Council, Kimberly Bennett.
Dans ce rapport, on voit qu'il y a un doublage du chiffre de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Ça veut dire 15 millions de personnes en RD Congo ont faim. C'est pas tout à fait à le niveau de famine, mais c'est encore une situation très grave. On voit aussi que la concentration des personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire sont dans les provinces qui sont touchées par le conflit et que la cause majeure, c'est le mouvement de population, alors le déplacement à cause du conflit.
La zone concernée est frappée par les conflits armés. Comment avez-vous obtenu ces chiffres dans la mesure où depuis un temps, il n'y a pas de récents au Congo?
C'est PAM, comme j'ai dit, FAO et le ministère d'Agriculture qui ont créé un rapport des conclusions préliminaires du insécurité alimentaire. Ils ont conclu que la plupart de l'insécurité alimentaire, c'est dans les 10 provinces qui sont touchées par le conflit.
Et quelle est la situation des femmes et des enfants?
43% des enfants qui sont moins de 5 ans sont mal nourris. Nos staff sur le terrain nous dit qu'il y a quelques-unes des femmes, des filles qui se prostituent pour avoir d'argent pour se nourrir, pour avoir quelque chose à manger. Il y a des hommes et des garçons qui joignent les groupes armés à cause de ça, parce qu'ils savent s'ils sont dans ces groupes armés, ils vont avoir un repas régulièrement. Et aussi les semences qu'on distribue pour les saisons de semences. On a vu aussi qu'il y a des personnes en besoin qui mangent les semences parce qu'ils sont tellement faim. Alors ça, c'est des conséquences du faim à travers le pays.
Les zones concernées sont des zones très fertiles. Vous parlez des Beni qui est considéré comme un grenier de la RDC.
70% de la population congolaise et agro-pastorale. Ça veut dire la plupart sont des fermières. S'ils déplacent et ils laissent leur champ, ils n'ont pas un moyen de manger, ils n'ont pas un moyen de gagner d'argent.
Qu'est-ce qui doit être fait pour résoudre la situation?
On a besoin de 1,7 milliard de dollars pour atteindre le 13,1 million de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire et protection.
Kimberly Bennett, responsable à Norwegian Refugee Council à Goma, en République démocratique du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La Russie a récemment réuni les représentants des groupes armés centrafricains au Soudan dans un processus de réconciliation. Cette démarche de Moscou est-elle une contradiction ou un effort complémentaire quant à la feuille de route de l'Union africaine? Idriss Fall a posé la question à la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara.
Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une rencontre où le ministre des Affaires étrangères soudanais est venu avec l'Union africaine, tous les partenaires. Et le Soudan a expliqué le but de cette initiative qui a permis justement de regrouper tous les groupes armés pour qu'ils signent une déclaration. Mais cette déclaration doit être prise en compte dans le cadre de la feuille de route de l'Union africaine, qui est l'unique cadre que le gouvernement est en train d'y travailler. Et le Soudan a expliqué qu'ils ont effectivement sollicité l'appui logistique de la Russie pour faire ce travail. Et l'Union africaine aussi, maintenant, a demandé que tous les intervenants qui sont intéressés par la crise centrafricaine se retrouvent dans un panel des observateurs qui pourraient accompagner cette crise.
La présence russe en Centrafrique, combien ?
Il y en a qui nous disent qu'il y a 4000 Russes au niveau de Bangui. Alors, comme vous savez, Bangui est une petite ville. S'il y a 4000 Russes au niveau de Bangui, automatiquement, c'est facile de le reconnaître. Vous savez aussi que la présence de la Russie en Centrafrique date de 1963. Donc, c'est une ambassade qui est établie là-bas chez nous. C'est un partenaire. Depuis ce temps, on a travaillé avec tous nos partenaires.
Il y a 3 journalistes russes qui ont été tués. Ils étaient venus faire un documentaire sur une société qui s'appelle Wagner.
Ce problème de Russes qui étaient tués, nous déplorons cela parce que c'est des humains qui ont perdu leur vie. Mais sachez que notre pays applique, comme tous les pays d'ailleurs, qui se respectent, la liberté de presse. Tout homme de médias qui arrive chez nous pour couvrir n'importe quel événement, ils sont toujours les bienvenus. Mais il faut respecter les procédures. Ça nous permet aussi de savoir qu'ils sont sur nos territoires et d'assurer aussi leur sécurité. Ces 3 personnes russes qui sont arrivées n'ont pas eu l'accréditation au niveau du ministère de la Communication. Ils ne se sont pas présentés. Nous ne savons pas comment ils ont organisé leur séjour. Mais nous avons appris qu'ils étaient vers la région de Dekwa et ils ont connu la mort par des hommes armés. Dans une telle situation, notre première réaction, c'est de voir avec l'ambassade de la Russie si ces personnes qui ont été tuées étaient reconnues par l'ambassade. Au début, c'était difficile de connaître leur nationalité. Et après les informations, on avait dit que c'était 3 Russes ou 2 Russes sur les 3, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés de connaître aussi l'évolution des enquêtes qui sont ouvertes et par le gouvernement et aussi par la Russie sur ce qui s'est passé. Et nous aimerions savoir les vraies causes de ces assassinats pour que nous puissions en tirer la leçon.
La ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Lutte contre le terrorisme, 4 pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Niger, veulent conjuguer leurs efforts. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité de ces pays se sont rencontrés hier à Ouagadougou. Bientôt des actions concrètes, nous dit Lamine Traoré, le correspondant de VOA Afrique dans la capitale burkinabé.
L'est du Burkina Faso est le nouveau bastion du terrorisme depuis plusieurs mois maintenant. Cet endroit fait frontière avec les 3 autres pays, le Niger, le Bénin et le Togo. Les 4 pays veulent désormais coopérer. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
Les chefs d'État de ces 4 pays ont souhaité qu'il y ait des actions concertées, des opérations conjointes à ces frontières-là pour donc endiguer la menace terroriste qui est dans cette région depuis le mois de février en ce qui concerne la partie du Burkina. Voir quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble, les échanges d'informations qu'il peut avoir, comment est-ce qu'on peut développer des formes de coopération en termes de renseignements.
Le Bénin et le Togo, même si ces 2 pays ne sont pas directement touchés par le terrorisme, comme leurs voisins du Burkina et du Niger, ressentent tout de même les conséquences des attaques. Aurélien Agbenonci, ministre des Affaires étrangères du Bénin.
Lorsqu'il y a une action terroriste, que ce soit à Ouaga ou sur le territoire du Niger, nous le ressentons fortement. Nos peuples sont très proches, les espaces sont contigus, nous essayons de prendre aussi nos dispositions.
L'est du Burkina est propice à l'expansion du terrorisme. C'est dans cette zone qu'on trouve les parcs du W et de la Pendiari, des lieux prisés par les terroristes. Il faut donc protéger cette zone et les pays veulent anticiper. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur du Bénin.
Pendant longtemps, c'est dans le Sahel que ça se passe. Mais on a vu l'évolution vers l'est du Burkina, qui est la zone boisée du Burkina, qui est aussi une zone boisée au Bénin, une zone boisée au Niger. Nous voulons anticiper pour que cette zone boisée ne soit pas un sanctuaire où les terroristes viendront se cacher.
C'est le même sentiment que partage Kala Ankuraho, le ministre des Affaires étrangères du Niger.
Les terroristes, ils veulent s'incruster, constituer des sanctuaires et être difficiles à déloger. Et de ces sanctuaires-là, en fait, ils pourraient attaquer n'importe quel de nos quatre pays. À partir de ce moment, nous sommes tous et de la même manière concernés. Nous sommes arrivés à des conclusions extrêmement positives. Le temps nous donnera raison.
Les quatre pays promettent des actions fortes dans les prochains jours. Le terrorisme a fait plus de 230 morts en 3 ans au Burkina Faso, selon un dernier bilan du gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, après un départ manqué le 4 octobre, les cours devaient officiellement démarrer ce 15 octobre à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Théâtre, on s'en souvient, de violentes manifestations en mai dernier. Mais de nombreux étudiants de l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques n'ont toujours pas regagné le campus. Les détails avec John Lyndon, envoyé spécial de VOA Afrique à Saint-Louis.
Campus désespérément vide à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Une situation facilitée par l'indisponibilité des œuvres sociales. Alune Gay, président de la coordination des étudiants.
C'est ce qui a fait donc que l'université Gaston-Berger n'a pas pu ouvrir son année académique à temps. C'est pour cela qu'il y a cette léthargie sur l'ouverture de l'année académique.
Le report de l'année académique serait en effet perturbé par celui de la date d'ouverture des restaurants universitaires par les autorités du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, qui réclame, selon la presse locale, près de 1,64 milliard de francs CFA au gouvernement. Mohamed Ndiaye, étudiant à l'UGB.
Il y a une dette que l'État doit payer au restaurant et que les restaurants n'ont pas encore ouvert. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir le campus si les restaurants ne sont pas encore ouverts.
Le 15 mai dernier, Mohamed Faloussen, étudiant de 26 ans, a été tué par balle lors de violents affrontements à l'intérieur du campus universitaire de l'UGB. Il exigeait alors avec ses camarades de meilleures conditions d'études et le paiement des bourses. Alpha Omar Diallo, étudiant à l'université de Saint-Louis.
Il y a une augmentation concernant les bourses. Comme une bourse entière s'élevait à 35 000. Actuellement, ils ont amené les bourses jusqu'à 40 000. Les bourses qui étaient 60 000, ils ont élevé jusqu'à 65 000.
Pour ce qui est des résultats de l'enquête sur le meurtre de Faloussen, on les attend encore.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des violences sexuelles et du VIH dans les zones de conflit.
Le sujet préoccupe l'ONU-SIDA qui vient de signer un protocole d'accord avec les autorités de la République centrafricaine.
Pour en parler, nous recevrons Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il nous dira ce que prévoient ces accords.
Nous écouterons aussi le témoignage d'un déplacé de guerre et d'un médecin exerçant dans une zone de conflit en RDC. Et nous raconterons les réalités vécues par ces personnes fuyant la guerre.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Chihale, namu dada, namu dada.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.